Chapitre 12. Depuis 10 ans, l'Empire Galactique n'avait pas eu d'empereur. Mais rien dans le fonctionnement de l'enclave impériale ne le laissait transparaître. Après des millénaires de tradition, l'absence d'un empereur passait totalement inaperçue. Certes, il n'y avait nulle silhouette en toge impériale pour présider aux diverses cérémonies officielles, nulle voix impériale pour donner des ordres, nul désir impérial à satisfaire, nulle protestation impériale à transmettre, nul plaisir impériaux pour égayer l'un ou l'autre palais, nulle maladie impériale pour y jeter de l'ombre. Les appartements privés de l'empereur dans le petit palais étaient restés vides. Il n'y avait pas de famille impériale. Pourtant, l'armée de jardiniers continuait à entretenir le domaine à la perfection, et l'armée de domestiques s'occupait des bâtiments. Le lit de l'empereur, jamais utilisé, était refait tous les jours avec des draps propres. Les chambres étaient nettoyées. Tout continuait de fonctionner comme avant, et l'ensemble des fonctionnaires impériaux, du haut en bas de la hiérarchie, continuait à travailler comme par le passé. Les officiers supérieurs donnaient les ordres qu'ils savaient que l'empereur aurait donnés. Dans bien des cas, en particulier aux échelons les plus hauts, le personnel était resté le même que du vivant de l'empereur. Les nouveaux fonctionnaires étaient soigneusement choisis et formés selon les traditions qu'ils auraient à servir. C'était comme si l'Empire, habitué au pouvoir d'un empereur, tenait à ce pouvoir fantôme pour maintenir sa cohésion. La junte le savait, ou du moins le pressentait vaguement. En 10 ans, aucun des militaires qui dirigeaient l'Empire n'avait osé emménager dans les appartements privés de l'empereur, au petit palais. Ces hommes n'étaient pas de lignée impériale, et ils sentaient que leur place n'était pas dans ces lieux. Une population qui supportait l'absence de liberté n'aurait pas supporté le moindre signe d'irrespect envers l'empereur, vivant ou mort. Même le général Thénard n'avait pas emménagé dans l'élégante construction qui avait si longtemps abrité les empereurs de 12 dynasties différentes. Il avait installé ses appartements et son bureau dans l'un des édifices construits à la périphérie du domaine, des horreurs, mais des horreurs bâties comme des forteresses, assez robustes pour soutenir un siège, entourées d'annexes pour loger une garde imposante. Thénard était un homme trapu qui portait la moustache. Ce n'était pas la vigoureuse et débordante moustache d'Alite, mais il la taillait avec soin, en laissant une mince bande de peau entre le poil et le dessus de la lèvre. C'était une moustache rouquine, et Thénard avait des yeux d'un bleu froid. Sans doute avait-il été beau dans sa jeunesse, mais son visage aujourd'hui était rondelet, et ses yeux, réduits à de minces fentes, exprimaient la colère de préférence à toute autre émotion. C'est donc avec colère, comme il était de mise pour un homme qui s'estimait le maître absolu de millions de planètes sans pour autant oser se faire appeler empereur, qu'il s'adressa à Enderlin.
« Je peux établir ma propre dynastie. »
Il jeta avec mépris un regard alentour.
« Cet endroit n'est pas digne du maître de l'Empire. »«
Être le maître, c'est cela l'important. »
observa Lynn d'une voix douce.
« Mieux vaut être maître dans un cagibi que prête-nom dans un palais. »«
Et mieux vaut encore être maître dans un palais, pourquoi pas ?»
Lynn portait le grade de colonel, mais il n'avait certainement jamais participé à la moindre action militaire. Sa fonction était de dire à Thénard ce qu'il désirait entendre et de transmettre fidèlement ses ordres. À l'occasion, quand cela ne semblait pas trop risqué, il tentait d'entraîner Thénard vers des voies moins aventureuses. Tout le monde avait surnommé Lynn le larbin de Thénard, et il le savait. Il ne s'en formalisait pas. Larbin, il était en sécurité. Or, il avait assisté à la chute de ceux qui avaient été trop fiers pour être des laquais. Certes, le jour viendrait où Thénard disparaîtrait, emporté par la perpétuelle rotation de la junte. Non sans une certaine philosophie, Lynn s'estimait capable de sentir tourner le vent à temps pour sauver sa peau. Enfin, peut-être. Il y avait un prix à tout.
« Rien ne vous empêche de fonder une dynastie, mon général, » dit Lynn. « Bien d'autres l'ont fait au cours de la longue histoire de l'Empire. Toutefois, cela prend du temps. » Les gens sont longs à s'adapter. Ce n'est souvent que le second, voire le troisième rejeton de la dynastie qui est complètement admis comme empereur.
« En quoi cela me concerne-t-il? Il suffit que je me proclame empereur pour le devenir. Qui osera me disputer ce titre? J'ai la poigne ferme. »
« Certes, mon général, votre pouvoir est indiscuté sur Trentor et sur la plupart des planètes intérieures. Il est toutefois possible qu'un bon nombre de citoyens des mondes extérieurs les plus éloignés ne soient pas encore prêts à accepter une nouvelle dynastie impériale.
Planète intérieure ou extérieure, la force militaire prime. C'est une vieille maxime impériale.
Elle est excellente. » Mais de nombreuses provinces disposent aujourd'hui de leurs propres forces armées, qu'elles ne mettront pas forcément à votre disposition. Les temps sont difficiles.
Tu conseilles donc la prudence?
Je conseille toujours la prudence, mon général.
Un beau jour, tu la conseilleras une fois de trop.
Lynn pencha la tête. Je ne puis que conseiller ce qui me semble vous être utile et profitable, mon général.
Comme avec ce Seldon dont tu me rebats constamment les oreilles.
C'est votre plus grand danger, mon général.
Tu n'arrêtes pas de me le seriner. Mais je ne vois pas où gît le danger, ce n'est qu'un professeur de faculté.
Certes, mais il fut jadis premier ministre.
Je sais, c'était du temps de Cléon. A-t-il accompli quelque chose depuis? Entre les difficultés qui s'annoncent et les menaces de dissidence des gouverneurs de province, comment un professeur serait-il mon plus grand danger?
C'est parfois une erreur, commença prudemment Lynn, car il convenait d'être prudent lorsqu'on éduquait un général, de considérer qu'un homme calme et discret est inoffensif. Seldon n'a jamais été inoffensif pour ses adversaires. Il y a 20 ans, le mouvement Joranumite a presque détruit Eto Demerzel, le puissant premier ministre de Cléon. Thénard acquiesça, mais les légères rides de son front trahissaient ses efforts pour se rappeler les événements. C'est Seldon qui a détruit Joranum avant de succéder à Demerzel au poste de premier ministre. Le mouvement Joranumite a survécu toutefois, et c'est encore Seldon qui a manigancé sa destruction, mais pas avant d'avoir fait assassiner Cléon.
Pourtant, Seldon a survécu, non?
Vous avez tout à fait raison. Seldon a survécu.
C'est étrange. Avoir fait assassiner l'empereur aurait dû signifier la mort pour un premier ministre.
Normalement, oui. Et pourtant, la junte lui a laissé la vie sauve. Cela semblait plus sage.
Pourquoi?
Lynn soupira intérieurement. À cause de cette science qui s'appelle la psychohistoire, mon général.
Jamais entendu parler,
dit Thénard catégorique. En vérité, il avait bien un vague souvenir de Lynn essayant à d'innombrables occasions de l'entretenir de cette étrange collection de syllabes. Il n'avait jamais voulu l'écouter, et Lynn s'était bien gardé d'insister. Thénard n'en avait pas plus envie maintenant, mais il crut déceler une urgence dans la voix de son conseiller. Peut-être qu'il ferait bien de l'écouter tout de même. « Personne n'en sait grand-chose, » expliqua Lynn. « Pourtant, il y a un certain nombre d'intellectuels qui la jugent intéressante. »«
Et c'est quoi ?»«
Un système complexe d'équations mathématiques. »
Thénard secoua la tête.
« Ne me bassine pas avec ça, je te prie. Je sais compter mes divisions militaires. » Voilà toutes les mathématiques dont j'ai besoin.
On raconte, poursuivit Lynn, que la psychohistoire permettrait de prédire le futur. Le général fit les yeux ronds.
Tu veux dire que ce Seldon est un devin?
Pas au sens habituel. C'est une matière scientifique.
Je n'y crois pas.
C'est difficile à croire. Mais Seldon est devenu quasiment une idole à Trentor et dans certaines régions des planètes extérieures. Cela dit, si la psychohistoire est capable de prédire l'avenir, ou même si simplement les gens le croient, elle peut devenir un puissant instrument de consolidation du régime. Mais je suis certain que vous l'avez compris, mon général. Il suffirait de prédire que notre régime durera en apportant paix et prospérité à l'Empire. Les gens le croiront et contribueront à ce que la prophétie se réalise. D'un autre côté, si Seldon désire l'inverse, il peut prédire la guerre civile et la ruine. Les gens le croiront tout autant, et cela risque de déstabiliser le régime.
En ce cas, colonel, nous n'avons qu'à veiller à ce que les prédictions de la psychohistoire aillent dans le sens que nous désirons.
Ce serait à Seldon de le faire. Or, il n'est pas favorable au régime. Il est important pour nous, mon général, de dissocier Seldon du projet élaboré par l'université de Stirling pour parachever la psychohistoire. Cette dernière peut nous être d'une grande utilité, mais uniquement si un autre que Seldon est responsable du projet.
Y a-t-il d'autres candidats éventuels ?
Ça oui. Il suffit de se débarrasser de Seldon.
Alors où est la difficulté ? Un ordre d'exécution et l'affaire est réglée.
Il vaudrait mieux, mon général, que le gouvernement ne paraisse pas directement impliqué dans l'affaire.
Explique-toi.
J'ai arrangé une rencontre entre lui et vous, ce qui vous permettra de sonder sa personnalité. Vous serez alors en mesure de juger si certaines de mes suggestions sont dignes d'être retenues.
Quand la rencontre doit-elle avoir lieu ?
Normalement, très bientôt. Mais ses représentants au projet ont demandé quelques jours de délai parce qu'ils sont en ce moment même en train de fêter son anniversaire, le 60e apparemment. Il m'a paru sage d'accéder à leurs vœux en leur accordant une semaine de battement.
Pourquoi ?
Insista Thénard.
Je déteste tout ce qui ressemble à de la faiblesse.
Vous avez tout à fait raison, mon général. Votre instinct, comme toujours, ne vous trompe pas. Toutefois, il m'a semblé que, pour les besoins de l'État, nous pouvions avoir intérêt à savoir ce qu'impliquent au juste ces festivités d'anniversaire.
Pourquoi ?
Tout savoir est utile. Voudriez-vous vous donner la peine d'en voir un extrait ?
Le visage du général Thénard demeura sombre.
Est-ce bien nécessaire ?
Je crois que vous trouverez cela intéressant, mon général.
La qualité de retransmission, image et son, était excellente, et durant quelques instants, la gaieté d'une fête d'anniversaire emplit le bureau passablement austère du général. Le murmure de Lynn tenait lieu de commentaires.
La plupart des festivités se déroulent sur le complexe du projet, mon général, mais la totalité de l'université y participe. Nous allons bientôt avoir une vue aérienne et vous pourrez constater qu'elle couvre une vaste étendue. En fait, bien que je n'en ai pas encore de preuves définitives, il semblerait qu'en plusieurs endroits de la planète, principalement des campus universitaires ou des administrations de secteur, se déroule ce que l'on pourrait appeler des manifestations de sympathie. Les festivités doivent se prolonger au moins 24 heures encore.
Es-tu en train de me dire que Trantor tout entière y participe ?
Oui, et de manière bien spécifique. Il s'agit pour l'essentiel des milieux intellectuels, mais le phénomène est incroyablement répandu. Il se pourrait même que certaines planètes extérieures soient touchées.
Comment as-tu obtenu cette transmission ?
Lynn sourit. Nous sommes très bien implantés au sein du projet. Nous avons des sources d'informations fiables qui nous tiennent au courant de tout ce qui s'y passe, ou presque.
Eh bien, Lynn, quelles sont tes conclusions ?
Il me semble, mon général, et je suis sûr que vous partagerez mon point de vue, qu'Harry Seldon fait l'objet d'un culte de la personnalité. Il s'est tellement identifié à la psychohistoire que si nous nous débarrassions de lui d'une manière trop voyante, nous gâcherions aussitôt la crédibilité de cette science qui, dès lors, ne nous servirait plus à rien. En revanche, mon général, Seldon se fait vieux, et il faudra bien le remplacer. Il nous suffit de choisir un homme de notre bord, favorable à nos vastes objectifs et qui partage nos grands espoirs pour l'Empire. Supprimons Seldon de façon que cela paraisse naturel. Il ne nous faut rien de plus.
Tu penses que je devrais le voir ?
Oui, afin d'évaluer ses qualités et de décider de la meilleure manière d'agir. Mais nous devons être prudents, car l'homme est populaire.
J'ai déjà eu affaire à des personnages populaires,
observa Thénard sombrement.